Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Et bonjour, bienvenue sur Radio IMO, nous sommes le vendredi 10 septembre, ça passe vite.
Oui, c'est une rentrée sur le chapeau de Robert.
Oui, c'est vrai, bon réveil, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'IMO. Bonjour Nicolas Tarade.
Bonjour Bérénice, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Bah écoutez, en pleine forme, on est de retour du MIPIM à Cannes.
Et oui, justement, donc, on parlait.
On en a profité pendant deux jours et une soirée. Le lundi soir, je vais vous raconter tout ça petit peu.
On va tout savoir là, les potins.
Dans les détails, je sais pas. Non, les potins, non.
Ah si, moi j'y étais pas, je veux savoir.
Ne s'est rien passé, c'était business, c'était professionnel.
Ah bon, voilà. Tout ce qui s'est passé à Cannes reste à Cannes, c'est ça?
Ça peut être vu comme ça également. Non, il y a eu beaucoup de monde.
Bon, oui, apparemment, on va en parler. On est ensemble pendant 2 heures au programme de l'actu des infos autour de l'immobilier, évidemment. À 8h, nous recevrons l'invité du MAG, Julien Savelli, président délégué de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas. Jean-Michel Royot sera aussi avec nous pour nous présenter la start-up IMO de la semaine, et elle s'appelle Sowell. C'est une super app d'ailleurs, dédiée aux gardiens d'immeubles, qui simplifie en fait la gestion des incidents techniques. Et son fondateur viendra sur le plateau. Mais voilà, avant toute chose, parlons de MIPIM, Nicolas. Alors vous y étiez, c'était sur la Croisette à Cannes, c'était mardi et mercredi. Un MIPIM restreint, mais un MIPIM intense.
Une édition forcément un peu spéciale après un an et demi de pandémie. Bérénice, c'était effectivement au Palais des Festivals de Cannes. Alors, au lieu que ça soit au mois de mars, c'était à la rentrée au mois de septembre. Une édition donc un peu spéciale, revue et corrigée. Mais finalement, une vraie réussite, une franche réussite, parce que certes, il y avait moins de monde que sur les codes habituels sur lesquels on pouvait s'attendre sur le MIPIM, c'est-à-dire plus de 20 000, 25 000 personnes. Là, on était largement en dessous, on était dans l'ordre des 5 000 personnes au maximum. Ah oui. Il y avait une jauge qui a été mise en place.
Un cinquième,
tout à fait. Mais en tout cas, ça laissait aussi plus de temps pour rencontrer, pour discuter, pour échanger, pour networker surtout. Donc c'était finalement un très bon salon, une très belle réussite. Et puis nous, sur les 2 jours, entre mardi et mercredi, on a eu beaucoup de personnalités forcément sur notre plateau de Radio IMO. En plus, on était super bien placés, on était vraiment sur la zone MIPIM Lounge. Oui. On avait en face de nous, on avait la mer forcément, on avait la Croisette, on avait les yachts, on avait les bateaux, les hélicoptères qui venaient poser. Enfin, c'était la première fois que je mettais les pieds à Cannes, et je ne suis pas déçu du voyage.
Et d'ailleurs, justement, pour nos auditeurs qui veulent voir notre studio, parce qu'il reste les photos et les
vidéos
les réseaux sociaux, vous allez vous taper radio.imo sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, allez-y, vous avez tout filmé là-bas avec
tout
l'équipe.
Tout a été filmé, vous pouvez tout retrouver, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, enfin toute la panoplie nécessaire. Et puis j'espère que ça vous a plu si vous nous avez suivis, et j'espère que ça vous plaira si vous allez nous découvrir sur ce MIPIM de Cannes qui a donc eu lieu mardi et mercredi. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir. C'était important, je crois, de tous se retrouver en équipe avec toute l'équipe de Radio IMO. On était près d'une dizaine de personnes sur place, donc c'était vraiment un très bel événement qu'on avait à cœur de couvrir.
Et alors, juste pour nous donner un peu l'eau à la bouche, là, on va écouter certaines interviews. Qui avez-vous reçu en fait sur les plateaux de Radio IMO?
On a reçu Madame la ministre du logement, Emmanuelle Wargon, qui est venue sur notre plateau. Elle avait inauguré le MIPIM donc mardi. Elle est venue faire quelques annonces, notamment sur la commission Rebsamen, la commission. Sur la relance pour la construction neuve. Normalement, les conclusions du rapport devraient être rendues, c'était l'information en tout cas de mardi, à la fin du mois de septembre. Après, il y aura des arbitrages à faire pour que ça soit inscrit dans la loi de finances 2022. Mais en tout cas, voilà, Emmanuelle Wargon était sur notre plateau. On peut penser aussi à Brune Poirson qu'on va écouter. On va écouter aussi Thierry Bièvre, PDG d'Elitis à Dijon, qui a une vision vraiment de la construction ultra importante. Hervé Le Gros, forcément, Alila, le logement pour tous, le logement de qualité, le logement abordable, avec une table ronde qui a été organisée dans l'un des amphithéâtres du Palais des Festivals de Cannes. Vraiment une super installation avec des écrans LED, avec du public aussi. Ça faisait du bien de retrouver du public pour nos émissions radio. En tout cas, beaucoup de personnalités, beaucoup de monde se sont bousculés un petit peu sur notre plateau. Également Mark Dixon, le PDG, le fondateur d'IWG, où finalement les Regus, les Spaces, où nous sommes aujourd'hui, où nos plateaux sont dans Paris. Il faut le préciser, c'est important. On les remercie, on est fiers de ce partenariat. Donc Mark Dixon et Christophe Burkhardt pour la partie France étaient sur notre plateau. Et puis voilà, beaucoup de personnalités se sont passés par chez nous, notamment aussi la métropole du Grand Paris. Je pourrais continuer hein, comme ça pendant 5 minutes.
Allez-y, restez encore quelques secondes.
Il y a dû avoir une bonne vingtaine, une bonne trentaine de personnalités qui se sont passées assis au micro de Radio Imo sur ces deux jours au Palais des Festivals de Cannes pour ce MIPIM.
Bon, et pas trop de champagne, j'espère.
Non, j'ai été prudent, avec modération.
Toujours.
Quelques coupettes quand même pour fêter. C'est important,
évidemment.
L'occasion, le lieu, ça faisait que, mais sinon principalement
oui, j'ai
de
vu
l'eau
le
parce
bar,
qu'il faisait chaud quand même.
Oui, et puis j'ai vu le bar sur les stories.
Le bar était pas très loin du studio, c'est vrai.
Juste en face, oui.
C'était, oui, on peut dire ça, juste en face, c'est vrai.
En tout cas, c'est parti pour ce nouveau Mac de Limo, bienvenue.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion de Système, promis, et bien ici.
Et on commence justement avec une interview, Nicolas.
Ah oui, Brune Poirson. On vient d'en parler,
ouais,
l'ex-secrétaire d'État à la transition écologique et l'ancienne députée La République En Marche. Eh bien, elle est revenue sur son parcours, elle a évoqué sa nouvelle vie professionnelle. Elle est aujourd'hui directrice du développement durable au sein du groupe Accor. Elle a répondu à nos questions sur Radio Imo, elle était au micro d'Élodie Rabel. Brune Poirson qui explique notamment ses choix dictés par ce désir agir de façon concrète.
Bonjour Brune Poirson, bonjour à vous. Vous êtes donc directrice du développement chez Accor, mais vous avez eu, on peut le dire, plusieurs vies. Hein. Vous avez travaillé au Royaume-Uni, en Inde, aux États-Unis, dans le domaine toujours du développement durable au sein de l'Agence française de développement et de Veolia. Vous avez aussi exercé des mandats politiques en tant que députée LREM, puis après secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire. Depuis avril 2021, vous avez rejoint le groupe Accor. Est-ce qu'on peut dire que votre décision de rejoindre Accor, ça s'inscrit dans la droite lignée de votre parcours personnel et professionnel ?
Pour moi, c'est une décision qui s'inscrit totalement en cohérence avec mon parcours passé. Moi, mon parcours et mon objectif, ça a toujours été de m'engager sur les questions qui sont liées au développement durable. Ça a été le cas quand je suis allée travailler en Inde, à la fois pour le Premier ministre indien, mais aussi pour l'Agence française de développement et Veolia. Ça a été le cas quand j'ai travaillé à Londres pour une fondation. Ça a été le cas quand j'étais en politique engagée auprès du ministre de la Transition écologique en tant que secrétaire d'État. Et c'est le cas maintenant en tant que directrice du développement durable d'Accor. Donc c'est vraiment le centre et le cœur de ma carrière, mon fil rouge et ce qui m'importe. Et donc, chez Accor, j'ai la chance de pouvoir continuer à le faire.
Alors justement, quelles valeurs vous ont fait rejoindre ce groupe et ce que vous aimeriez porter chez Accor ?
J'ai rejoint le groupe Accor pour plusieurs raisons. Je dois dire que la première, c'est parce que c'est un groupe qui est constitué de gens. L'hôtellerie, c'est un métier qui est très intensif en main d'œuvre. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a des vraies personnes. On parle pas de produits financiers, on parle pas non plus d'usines qui fabriquent, je sais pas, certains objets très industriels. Donc c'est vraiment ça qui m'a beaucoup intéressée. La deuxième chose aussi, c'est que l'industrie a subi une crise sans précédent et je pense que même si c'est très difficile, c'est un moment pour s'interroger sur ses fondamentaux et se demander comment est-ce qu'on peut reconstruire mais encore mieux et différemment d'avant. Et puis la dernière chose aussi, c'est parce que le PDG Sébastien Bazin est selon moi un grand leader et j'avais envie de le suivre.
Concrètement, qu'est-ce que vous avez envie d'implémenter demain chez Accor?
Alors, je peux pas tout vous dire maintenant, j'aimerais bien, mais je peux pas tout, parce que on est en train d'élaborer la stratégie, et donc, je réserve quelque part les annonces pour le moment où on va sortir cette stratégie. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle sera centrée, bien évidemment, sur trois piliers principaux. Le premier, pas forcément par ordre d'importance, hein, mais le premier sera la question environnementale, avec au cœur de celle-ci, la biodiversité, la nature. On n'en parle pas suffisamment, on se concentre beaucoup sur les émissions de CO2, et moi, je crois qu'il est crucial de parler des questions de la nature, parce que la nature est un puits de carbone. Le deuxième grand pilier, ce sera la diversité, l'inclusion, les aspects sociaux. Là encore, je pense qu'ils sont absolument majeurs et absolument centraux, surtout dans le domaine de l'hôtellerie. On a de plus en plus de mal à attirer des talents et des personnes pour venir travailler chez nous, mais aussi à l'heure où le Covid a créé des inégalités sociales sans précédent. Donc je crois que les entreprises ont un rôle à jouer pour trouver des solutions. Et enfin, sur le troisième pilier, ce sera celui de la solidarité, avec une approche vraiment centrée sur continuer à aider, comme on l'a fait par exemple avec le lancement d'un fonds que venant en aide aux familles et à nos employés qui ont été affectés par le Covid. Donc voilà essentiellement les trois priorités.
Merci beaucoup Brune Poirson.
Merci beaucoup à vous de votre invitation.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bon réveil sur Radio Imo, vendredi, ça y est, ce soir c'est le week-end,
c'est
courage
le week-end.
Pour ceux qui...
Plus que quelques heures.
C'est ça, pour ceux qui bossent. On va écouter d'autres interviews que vous avez réalisées, Nicolas, dans
que
le...
Que toute l'équipe de Radio
que
Imo
toute l'équipe, oui, a réalisé dans
sur,
le cadre
sur ce MIPIM,
des MIPIM. Oui, quand je disais vous, c'était vous, l'équipe, hein, évidemment. On va parler climat, juste avant ça, les effets du climat. On en parle beaucoup en ce moment, depuis quelques mois, quelques années. Le climat... Les effets du climat affectent notre vie quotidienne. Dans le secteur des assurances, on s'y prépare déjà, hein, à revoir justement la tarification des contrats. C'est Jody Leclerc qui nous en dit plus, justement.
Le groupe Suisse Re se projette pour déterminer les grandes tendances de 2040. Et surprise, les assurances habitation vont augmenter. Une étude publiée par le groupe Suisse indique des estimations, notamment sur les assurances des biens immobiliers, 450 milliards de dollars en 2020. Le triple d'ici 2040. L'augmentation des intempéries est récurrente, comme à Agen cette semaine, où 3 jours de pluie se sont abattus en une seule nuit. Les primes pour couvrir les risques climatiques sur les biens immobiliers devraient bondir, plus 183 milliards de dollars. Et on le sait, les catastrophes naturelles étant plus difficiles à prévoir, la réassurance dommages va être la plus risquée et la plus complexe au cours des 20 prochaines années, selon le rapport.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a enfin trouvé son appartement. Proche d'une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
À 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et pas loin de la piscine.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu un véritable coup de cœur. Grâce à une recherche immobilière innovante par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Depuis plus de 40 ans, GERCOP est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, GERCOP offre une gamme de produits complète pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, GERCOP vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. GERCOP.com.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Avec un point marché immobilier, Bérénice, pour ce début de matinée, pour ce vendredi matin, le Mac de Limo. Le marché se porte bien, plutôt dynamique, plutôt résilient. On en parlera peut-être avec Julien
oui,
Savelli, qu'on recevra tout à l'heure dans la deuxième heure du Mac de Limo. En tout cas, il y a une étude, Meilleurs Agents, qui est sortie en début de semaine. Thomas Lefebvre, hein, à ce propos, le directeur scientifique de Meilleurs Agents, qui est l'un des leaders de l'estimation immobilière en ligne, eh bien, nous a dévoilé les nouvelles tendances du marché immobilier de l'après-crise et de l'après-Covid et celui qui se dessine pour demain et tout ça au micro de Kenza Braiga.
Thomas Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique pour Meilleurs Agents. Alors 2 ans après la dernière conférence de presse de Meilleurs Agents, la France a traversé évidemment une crise inédite. Alors comment vous avez affronté en interne et au niveau de votre business cette situation inédite?
Je pense comme à peu près toutes les entreprises françaises, on s'est adapté à la fois avec les collaborateurs qui ont été mis à pas forcer au télétravail, enfermé chez eux, mais on a réussi merci à eux de poursuivre notre activité. Il n'y a pas eu de rupture d'activité, ce qui nous a permis aussi d'assurer le business auprès des agences. On a quand même la chance d'avoir un business qui est digital, où on offre en fait une certaine visibilité aux agences immobilières sur nos plateformes. Et donc pour préparer notamment l'après-crise, et elles ont utilisé nos services en ce sens-là, puisque les Français ont eu de nombreuses questions sur le marché de l'immobilier, venaient sur les plateformes pour s'informer sur les prix, sur les agences, et donc ça nous a permis effectivement de traverser ces différents confinements. Je veux pas dire de la meilleure manière, mais bon, on s'en est sorti.
Alors justement, avec vous Thomas Lefebvre, on va peut-être parler des nouvelles tendances immobilières. Alors on a beaucoup parlé suite à cette crise d'exode urbain. D'abord, est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que vous avez remarqué de nouvelles attentes de la part des Français?
Alors oui, il y a eu quand même certaines conséquences à cette crise sanitaire. Les différents confinements qui ont été mis en place pour lutter contre la propagation du virus ont créé des nouvelles envies chez les Français, des nouveaux modes de consommation, et le marché de l'immobilier n'est pas resté en reste. La première chose en fait qu'on constate et qui est quand même assez marquée, c'est cette dynamique des prix de l'immobilier qui s'est complètement inversée entre les grandes villes de France qui tiraient habituellement le marché de l'immobilier versus le monde rural. Aujourd'hui, on a quand même un monde rural qui porte le marché français avec une hausse de 6,4%, ce qui est quand même très conséquent, alors que les grandes villes de France augmentent, hein, on est sur la moyenne nationale autour de 4-5%, et Paris baisse. Là, c'est la nouveauté de 1,5%. Voilà, on a quand même une divergence qui est extrêmement significative.
Alors, est-ce qu'il y a des zones qui ont été dynamisées par la crise, selon vous ? Est-ce que, par exemple, le télétravail a changé la donne pour certaines villes de France ?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, d'une manière générale, sur le rural. Le chiffre est suffisamment intéressant pour qu'on s'y arrête un petit peu. Et quand on regarde dans le détail, en fait, on se fait sans doute une mauvaise image un peu du rural parce qu'on pense toujours à la campagne, etc. Alors que ce chiffre de 6,4% d'augmentation des prix dans le rural, en fait, il s'explique par deux sous-marchés. Le premier marché, c'est le marché des résidences secondaires, où là, évidemment, bah, aidé par le télétravail, il y a un concept un peu de résidence semi-principale qui a émergé et qui va continuer, à mon avis, d'émerger dans les prochaines années. Et le deuxième marché qui explique ce chiffre dans le rural, c'est les communes périurbaines. C'est vraiment ces communes qui sont considérées comme rurales, mais qui sont sous influence économique des grandes agglomérations françaises. Et donc, tout simplement, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que les gens, les Français, sont allés un peu plus loin dans les métropoles pour gagner en qualité de vie, gagner en pouvoir d'achat aussi, parce que bah, les prix sont évidemment moins élevés dans ces zones-là. Voilà, c'est ça les phénomènes qu'on a observés.
Donc ça veut dire que les lieux de vacances sont devenus des vrais lieux de vie, finalement.
Les lieux de vacances sont devenus des lieux de vie. Alors, il y a eu, je crois, c'est 6 télétravailleurs sur 10 qui ont travaillé au sein de leur... d'une autre maison, d'une maison de loisirs, etc. Pendant le confinement. Et donc, évidemment, bah, ça crée certaines envies. Et c'est vraiment le marché qui tire ce marché des résidences secondaires, qui est un tout petit marché, encore plus quand on regarde le littoral, évidemment. Mais c'est suffisamment significatif pour en parler.
Très bien. Pour finir, vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes chez Meilleurs Agents. Parlez-nous de cette formidable croissance.
Alors, il y a deux fronts sur lesquels en fait Meilleurs Agents se développent. Il y a un premier fond évidemment en France avec le rapprochement avec Se Loger et le lancement d'offres communes qui ont lieu en juin 2021 sur le lancement d'offres de visibilité.
C'est trop dépassé en fait.
C'est ça, ça va trop vite. Ça va trop vite.
Ça va trop vite pour vous.
Avec le lancement de l'offre commune pour nos clients agences immobilières qui ont désormais donc la possibilité de souscrire des abonnements de visibilité sur l'ensemble, enfin sur les plateformes françaises de Meilleures Agences Se Loger et Logikimo, donc qui assurent une visibilité énorme en fait aux professionnels de l'immobilier puisque c'est je crois 20 millions de visiteurs uniques. Je suis désolé, hein, les chiffres business, j'étais pas prêt.
Mais vous les connaissez quand même. Hein.
Je les connais un petit peu. c'est donc 20 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de ces trois plateformes. C'est juste incroyable.
C'est une belle croissance effectivement.
Et de l'autre côté, c'est aussi le développement via les autres plateformes du groupe Axel Springer où on développe notre savoir-faire en data science immobilière sur lesquels en fait on met à disposition des sites d'Immovelt en Allemagne, Bouleversé Web en Belgique, nos outils d'estimation, notre plateforme de données pour justement aider les Allemands, aider les Belges à valoriser leur patrimoine immobilier.
Bon, et bien merci d'avoir répondu à nos questions, Thomas Lefebvre, directeur scientifique pour Meilleurs Agents.
Merci à vous.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Il est bientôt 7h30, vous êtes sur Radio Immo. Dans quelques instants, on va recevoir notre invité. Hein. Comme chaque semaine, on reçoit une personnalité de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est Julien Savelli, le président délégué de la FNAIM. Juste avant, d'autres actus, d'autres infos immobilières. Et justement, une des infos de ce matin, c'est la dernière étude de la néo-agence Liberkeys. Alors, on a déjà reçu le cofondateur Thomas Venturini. Et justement... une étude est sortie qui montre une légère hausse du prix du mètre carré dans la capitale, mais ce sont surtout les villes de proximité des gares du Grand Paris Express qui tirent leur épingle du jeu. Élodie Rabel.
Dans la capitale, alors que les touristes reviennent petit à petit, le marché immobilier a légèrement grimpé en août selon la néo-agence Liberkeys. Par rapport au mois de juillet, la hausse est de 0,3% en août dans l'ensemble des arrondissements de la capitale. En revanche, le mois de septembre pourrait retrouver la dynamique observée avant les vacances d'été, même si le marché est toujours en en baisse en comparaison à janvier. En effet, une baisse générale des prix est toujours observée depuis le début de l'été 2021, de l'ordre de 2,1%. Cette baisse concerne l'ensemble des arrondissements parisiens, à l'exception du 12e arrondissement. Les villes qui tirent leur épingle du jeu et accélèrent fortement par rapport à la ville lumière sont les villes à proximité des gares du Grand Paris Express, sous l'impulsion du projet du Grand Paris qui redessine la dynamique du territoire francilien. Une hausse de 25% est observée depuis 5 ans. Il faut dire qu'avec les vacances d'été, les biens mis en vente ont été rares, très rares même. Les prix grimpent donc inexorablement. Le prix moyen au mètre carré était élevé, autour de 11 307 euros. Sur le podium des arrondissements qui grimpent le plus, deux d'entre eux subissent une augmentation du prix du mètre carré de plus de 0,5%. C'est le premier arrondissement et le huitième. Les investisseurs qui bénéficient de conditions de crédit toujours exceptionnelles, à 1,05% et même en dessous de 1% pour les meilleurs dossiers, continuent à se ruer sur la capitale. Plus que jamais, Paris apparaît comme le lingot d'or de la pierre.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, blood everything. I walked away. You want me then? But easy come and easy go, and it put in. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra da da da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit on embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to feel good, I went up in the feature, telling where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can't give it away, you have and you took the bait, but I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, that the dog is yours, keep also home, 'cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby, I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out.
Begging Maneskin, ça réveille. Pour un vendredi matin.
Oui, c'était une chanson de l'Eurovision. C'est ceux qui ont gagné l'Eurovision.
C'est ça, c'était,
bah,
c'était surtout une chanson norvégienne, une
oui,
chanson qui. Madcon, je crois. Madcon,
oui,
oui, oui. C'est ça.
On se rappelle, je chante Il va pleuvoir.
C'est possible. En tout cas, ça fera du bien parce que vu la température qu'il a fait toute la semaine, un peu de pluie, un petit 25 degrés, ça serait vraiment parfait.
Le Mac de Limo continue
en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes dans le Mac de l'Imo, on est bien tous ensemble, on est ravis d'être avec vous. On parlait du MIPIM tout à l'heure, vous y étiez avec nos autres journalistes.
Avec toute l'équipe de Radio IMO,
exactement. Alors pas toutes, hein, on était quand même quelques-uns à rester en
Bérénice.
Studio. Voilà.
Mais vous viendrez sur l'édition du mois de mars, Bérénice.
Avec plaisir, et justement... Une interview, et pas des moindres.
Celle de la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, qui nous a fait l'honneur d'être sur le plateau de Radio Imo, hein, sur ce MIPIM. Elle nous a fait quelques confidences sur l'année à venir, 2022, une année charnière, une année présidentielle, une campagne où, logiquement, en tout cas, c'est ce que nous dit la ministre en charge du logement, eh bien, la politique du logement qui sera au cœur de cette campagne vraiment présente, vraiment puissante, cette politique du logement. On l'espère, en tout cas, on le souhaite, il le faut, parce qu'il y a une vraie crise de l'offre aujourd'hui en France, une vraie crise au niveau de la construction de logements neufs. Donc il faut vraiment qu'il y ait une politique de logement à la hauteur, en face. En tout cas, voilà, Emmanuelle Wargon a fait quelques annonces sur la commission Rebsamen aussi. Enfin, vous allez entendre tout ça. Elle a répondu aux questions de Sylvain Lévy-Valency, notre directeur des programmes à Radio Imo.
Je suis sur le plateau avec Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment allez-vous ?
Très bien, c'était sympa ce MIPIM.
Voilà, avec une ambiance quand même, sur la terrasse, Riviera, face à la mer, où vous rencontrez tous les professionnels. Vous n'avez pas arrêté depuis ce matin. Première question, sensation sur votre présence au MIPIM.
Une envie de tout le monde de tourner la page. Un plaisir de tous les acteurs de se retrouver en physique. C'est vrai que ce n'est pas la même chose d'être en visio. Bien sûr, on va à l'essentiel, on partage des informations, mais se retrouver, partager des projets, donc une envie d'avancer. Mais quand même, avancer avec une crise qui nous a tous un peu changé.
Alors, deux questions, je sais que votre temps est compté. Première question, François Rebsamen a remis son rapport, va remettre son rapport. Alors, vous sentez venir la question, bien évidemment, on vous parle et on vous reparle encore une fois du logement neuf. Vous avez pris à bras-le-corps la question. Emmanuelle Wargon, que nous préparez-vous pour justement relancer cette offre de logement neuf dont vous savez qu'il est crucial que nous ayons dans le pays ?
Il va falloir attendre encore quelques jours pour que je puisse vraiment répondre précisément à la question. Parce que François Rebsamen n'a pas encore remis son rapport. Il y a des travaux intermédiaires. Et c'est un travail collectif, puisqu'il le fait avec toute une commission dans laquelle il y a tous les acteurs. On aura ses conclusions d'ici la fin du mois. Et les premières annonces se feront dans le cadre de la loi de finances 2022. Parce que moi, si vous voulez, quand je demande à un grand élu de travailler, à une commission de travailler, c'est pas pour faire un rapport qui restera comme un document bien intéressant et voilà. C'est vraiment pour que ce soit opérationnel. Donc il y a une dimension économique qui sera dans la loi de finances. Il y a une dimension simplification. La simplification, c'est un peu un serpent de mer. On essaye, on en fait, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut aller un cran plus loin ? Et puis après, il y a une dimension très politique. Et celle-là est particulièrement intéressante parce qu'au-delà des outils, de l'équation technique, il y a l'envie. Est-ce qu'on a envie de construire ? Est-ce que les maires qui construisent vont embarquer leurs habitants ? Est-ce que c'est possible de convaincre des concitoyens, des électeurs, que c'est bien de construire, qu'il faut accueillir des nouveaux ? Comment est-ce qu'on redevient généreux ? Comment est-ce qu'on redevient hospitalier ? C'est toute cette question-là qui est devant nous.
Alors justement, les maires, c'est bien la question du jour. On est d'accord qu'aujourd'hui, les relations se sont quand même bien apaisées. Les permis de construire, effectivement, c'est quand même un sujet dans certains types de métropoles. La loi climat et résilience a été adoptée. La bataille mondiale sur le climat est un enjeu majeur. Le logement, la construction, c'est un vrai sujet puisque c'est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, me semble-t-il. Quand vous voyez justement loi climat résilience, le DPE qui est devenu opposable à partir du 1er juillet, le carton de ma prime Rénov aussi, incroyable. Je crois que vous aviez atteint le chiffre de l'an dernier déjà dans le premier trimestre et je crois qu'on sera à 800 000.
C'est ça, notre hypothèse, c'est 800 000 dossiers déposés fin d'année.
Considérable. Et en plus, vous avez fait une chose remarquable, c'est que vous avez étendu ma prime Rénov à l'échelle de la copropriété. Deux angles de questions, vous choisissez. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'industrie immobilière pour qu'on amorce définitivement et massivement pour massifier cette offre via la rénovation énergétique. Et le deuxième volet, c'est bien évidemment, se prépare à terme une grande campagne présidentielle, bien évidemment. Est-ce que, à votre avis, la politique du logement sera inscrite au cœur des débats qui vont s'échanger? Je ne pouvais pas résister.
Alors, c'est deux grosses questions en pas beaucoup de temps. Donc, je vais répondre très vite à la deuxième et la réponse sera oui. Donc, la deuxième, c'est est-ce que le logement sera au cœur de la campagne? J'en suis convaincue.
Bonne nouvelle.
Parce que le logement, c'est la première préoccupation des Français. En tout cas, c'est leur premier poste de dépense. Et on a bien senti, à travers la crise sanitaire, quand on a tous passé beaucoup plus de temps chez nous, à quel point le logement, c'était structurant. L'endroit où on a besoin de se sentir bien, l'endroit où on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où on s'occupe de ses enfants. Donc, un logement abordable et de qualité pour tous, c'est une préoccupation majeure, donc ce sera dans la campagne.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Alors on reste dans le sud pour...
On était à Cannes, on va aller à Nice.
Voilà. C'est pas très loin.
Pas très loin, c'est vrai.
Justement, dans le quartier nord de l'Ariane, une mère de famille est expulsée de son logement social en conséquence de la condamnation d'un de ses fils, âgé de 19 ans. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un bailleur social peut expulser ses locataires s'ils sont punis par la loi, Jody Leclerc?
Et oui, le Code civil, article 1728, indique que la jouissance paisible des lieux loués n'a pas été respectée. La locataire qui héberge son fils et qui s'est faite expulser se voit même payer une amende de 500 euros. Mais la loi s'applique aussi dans le sens inverse. Si votre propriétaire ne vous assure pas la jouissance paisible de votre logement, vous êtes en droit d'exiger d'être relogé. Côte d'Azur Habitat bataille depuis près de 3 ans de mise en demeure et de tentatives de dialogue avec cette famille. Le premier bailleur social de Nice explique qu'il veut tout simplement lutter contre les délits et les incivilités. C'est pourquoi Côte d'Azur Habitat impose un nouveau règlement intérieur. Les locataires qui commettent des actes de délinquance sont réprimés et peuvent même faire l'objet d'une expulsion, comme dans ce cas précis. Mais alors, comment ont-ils eu accès au dossier judiciaire de ce jeune homme? Eh bien, c'est un tout nouveau système instauré dans la métropole de Nice. Une convention a été signée entre le parquet, la police et Côte d'Azur Habitat afin d'obtenir les informations qui concernent les habitants condamnés pour des délits. Depuis cette instauration, 70 procédures ont été engagées à Nice sur un an.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion Système, promis et bien ici.
Vous êtes prestataire des collectivités locales et vous souhaitez développer votre activité. Rejoignez le réseau des entreprises partenaires du CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France. Exposé au CELIF les 2, 3 et 4 novembre au Paris Event Center, un événement sous l'égide de BPI France. Toutes les modalités sur le site celif.fr, celif.fr. Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Accéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Et on se réveille tous ensemble.
Réveil. Ouais, un petit café, le Mac de l'Immo, c'est parfait ça pour le vendredi matin.
C'est vrai, vous êtes au thé vous? Ah non, au café.
Non, je suis au café.
Au café,
je
café noir.
Le café. Je préfère le thé pour m'endormir et le café pour me réveiller.
D'accord, ah ça vous endort le thé? Tisane alors plutôt?
Non, le thé.
Le thé, d'accord, le thé, ouais. Très bien. Bon, on va parler encore du MIPIM. Justement, une autre interview.
Oui, une interview avec Ingrid Napi, professeure à l'ESSEC, qui est titulaire de la chaire immobilier développement durable. On a évoqué tous les deux, ce changement de paradigme au niveau de l'immobilier de bureau, savoir un petit peu comment ça se passe avec évidemment l'expansion du télétravail dû à la crise sanitaire qu'on a tous connue, savoir un petit peu comment les quartiers d'affaires, les quartiers de bureau sont amenés à se métamorphoser ou pas, hein, parce qu'on le voit bien dans le quartier notamment de la Défense à Paris, les gens, les salariés sont de retour, hein, en ce début septembre, il y a du monde à la sortie du métro, il y a du monde sur le parvis, donc on peut se poser la question du télétravail, est-ce qu'il y a du full télétravail, est-ce qu'on est sur du flex office davantage, ou alors est-ce qu'on est tout le monde de retour au bureau. En tout cas, on évoquait tout ça avec Ingrid Napi, je vous propose de l'écouter. Bonjour Ingrid.
Bonjour Nicolas.
On se retrouve autour d'un cahier surtout, le cahier voilà. Numéro 8 2021, les cahiers de la chaire immobilier et développement durable, bien sûr, de l'ESSEC Business School. Le titre, quartier d'affaires et bureaux dans la ville post-Covid. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur, Ingrid Napi ?
Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve ? C'est un cahier qui permet de faire le point sur une question d'actualité chaque année. Donc, en partenariat avec le MIPIM, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et on en parlera dans une table ronde. C'est l'occasion de faire d'avoir des regards croisés sur une thématique qui est la thématique d'actualité aujourd'hui. Quel sera le bureau post-Covid? Quel sera le quartier d'affaires post-Covid? Et quelle sera la ville post-Covid? Donc, on a 21 regards complètement complémentaires, des regards d'universitaires, des regards des gros investisseurs. Alors, par exemple, pour les universitaires, on a Carlo Ratti. Alors, des regards internationaux. Donc, j'ai oublié de dire, le cahier est à la fois en français, mais également en langue anglaise. Et surtout, chose importante, il sort donc mercredi 8 septembre sur le site de la chaire et donc on le retrouvera partout. Donc c'est un cahier multimédia, donc 5 universitaires dont Carlo Ratti du MIT, Richard Charmure de l'université McGill à Montréal, mais également des gros investisseurs, le regard croisé de par exemple de Meka Brunel chez Gecina, de Heinz, de AG Real Estate en Belgique avec Serge Potret ou de Ivano et Cambridge avec Nathalie Paladitchev, mais également d'élus, je pense à Patrick Ollier de la métropole du Grand Paris ou d'Emmanuel Grégoire de la mairie de Paris, des promoteurs immobiliers Heinz, des architectes. Donc cette année, nous avons Jean-Luc Crochon et puis également des aménageurs, Pierre-Yves Guis de Paris La Défense, mais également un aménageur à Dubaï, un collègue Mahmoud Al-Bouraï. Donc voilà, on a plusieurs regards, 21 personnes, qui nous donnent leur point de vue, tant en tant que promoteurs, investisseurs, usagers, de l'immeuble de bureau et du quartier d'affaires qui est l'ensemble des immeubles de bureau. Donc en fait, on s'intéresse bien sûr à l'effet de la crise Covid. On les connaît plus ou moins. D'abord, un télétravail subi, impossible d'aller au bureau, vides, mais normal puisqu'on ne peut pas y aller. Un télétravail qui est après choisi, mais qui a de la difficulté à se mettre en place. Et donc, quel sera l'avenir du bureau tant en tant que produit, et ça c'est très important, en tant qu'espace qui correspond à des besoins, un produit dans le marketing, ça répond à des besoins d'usagers. Quels sont les besoins des usagers? Quels sont les usagers? Et je viendrai après là-dessus. Mais également en tant qu'actif, c'est-à-dire ça doit rapporter des revenus. Et on le voit, on l'entend. Est-ce que c'est justifié? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. C'est que aujourd'hui, les investisseurs tendent à délaisser un peu l'immobilier de bureau, qui était vraiment, vous vous souvenez, c'était l'actif majeur de tous les portefeuilles immobilier. Alors on avait la logistique, bien sûr, les centres commerciaux, mais avec la crise du Covid, on se dit, si les immeubles sont plus occupés, c'est peut-être plus aussi rentable, donc revenons sur une autre classe d'actifs qui avait été largement délaissée, le logement. Alors, comme vous le savez, Nicolas, moi ça fait pratiquement maintenant 34 ans que je travaille sur l'immobilier de bureau en tant qu'universitaire et comme objet d'étude. Donc on a dit que la crise avait accéléré des mutations en cours. Quelles étaient ces mutations? L'économie d'innovation, les espaces de coworking qui sont associés, leur pendant au niveau de l'entreprise qui est le flex office. Et donc on dit la crise a stoppé et maintenant elle va remettre en avant sur la table toutes ces mutations qui étaient déjà annoncées ou déjà mises en pratique.
Il y avait eu d'amorce en tout cas, il y a eu une accélération ces dernières semaines, ces derniers mois.
Moi je tenterais de dire que non, en fait elle va engendrer de nouvelles mutations.
C'est des mutations qui engendrent de nouvelles mutations.
D'ailleurs, on le voit, le flex. Alors ça, c'est une enquête que nous avons également repris dans le cahier, notre enquête sur de la Share Workplace sur mon bureau post-Covid, où on a interrogé tous les usagers du bureau, toutes ces aspects confondus. Et là, on voit quelque chose de très intéressant, dont on parle peu, mais qui est important. C'est le poids également des usagers, des employés, des agents de maîtrise dans les bureaux qui doivent travailler 8 heures par jour, qui sont pas des consultants chez le client, qui ne sont pas des cadres dirigeants qui peuvent travailler à droite, à gauche, qui sont des personnes qui utilisent les espaces de bureau Et quand on parle de bureaux, c'est pas uniquement des espaces de coworking, c'est pas uniquement des bureaux dans des secteurs d'activité du numérique. Ça peut être des bureaux dans des ministères, ça peut être des bureaux dans des banques, ça peut être des bureaux dans des entreprises industrielles. Donc, faut faire très attention quand on parle de bureaux. Et là, on voit clairement que les besoins sont pas les mêmes.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et oui, on est ensemble jusqu'à 9h dans le Mac de l'Immo. Alors, on parlait de Paris, du retour des Parisiens. Et justement, on se pose la question, apparemment, un cadre sur deux souhaite quitter Paris et sa région. Pourquoi ? Eh bien, parce que la capitale est trop chère. Peut-être les transports en commun sont trop stressants.
Oui, le bruit, beaucoup de monde aussi.
C'est ça. Enfin...
Les prix aussi.
Et prix, et puis on a envie de verdure. La moitié des Parisiens n'aiment plus Paris, Élodie Rabel.
Les incertitudes sur la poursuite d'une crise sanitaire qui s'enlise et trois confinements successifs ont eu raison des nerfs de nombreux cadres parisiens. Selon la dernière étude Cadre Emploi, un cadre sur deux souhaiterait quitter Paris et l'Île-de-France pour s'installer en province. Les Parisiens les plus enracinés jettent l'éponge. Tant pis, ils préfèrent laisser la capitale aux touristes et profiter de plus d'espace, de verdure et de calme. Selon le site de recrutement, ce sont pas moins de 50% des cadres interrogés qui aimeraient quitter la région capitale pour s'installer en province. Leur principale motivation, une meilleure qualité de vie à moindre coût. Tant pis pour l'accessibilité rapide à tous les services, salués par 85% des sondés, ou la vie culturelle qui fait l'unanimité à près de 84%. Aujourd'hui, ce n'est apparemment plus suffisant. 54% des cadres se déclarent insatisfaits de leur situation. Parmi les contraintes devenues insupportables sont citées pêle-mêle le coût de la vie trop élevé, les temps de transport trop importants et une ville jugée trop stressante. Sans surprise, parmi le premier facteur de motivation pour se mettre au vert figure la diminution des charges, mais ce n'est pas tout. Le confinement a provoqué une véritable crise de conscience quant à la qualité de vie dans des logements exigus et chers, couplée à des perspectives moroses, l'impossibilité d'acheter sauf à s'endetter lourdement pendant 25 ans. D'ailleurs, quand de plus en plus de cadres se déclarent dans l'impossibilité d'acheter à Paris, la province devient alors une alternative envisageable. Et cela s'accompagne de passages à l'acte de plus en plus nombreux. Près d'un tiers des cadres recherchent activement un poste ou ont demandé une mutation. En revanche, pas question de s'installer en rase campagne. Parmi les villes plébiscitées, on trouve Bordeaux, suivi par Nantes et puis Lyon. Point commun de ces trois villes, elles sont toutes situées à 2 heures de TGV de la capitale. Le point commun entre ces futurs ex-parisiens, la recherche d'un meilleur cadre de vie.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bienvenue dans le Mac de l'Immo pour ceux qui nous rejoignent. Comme chaque vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, l'invité du Mag, Julien Savelli.
Oui, le président délégué de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Mais avant ça, c'est l'heure de découvrir la start-up Immo de la semaine, la start-up qui s'appelle Sowell, c'est ça je crois, de mémoire.
Tout à fait, c'est une application dédiée aux gardiens d'immeubles, mais là, Jean-Michel Royot et son
c'est
fondateur.
Il commence à s'installer en plus c'est en ça. Plateau. Il met son casque, je
Romain
le vois, pigne d'impatience, Jean-Michel Royot. En tout cas, moi, c'est fut un plaisir. Je vais laisser ma place. Sylvain Lévy-Valency va prendre la place. Il arrive, il est derrière, il prend son café, il arrive. Il est en pleine forme pour faire la deuxième interview, deuxième heure à partir de 8h jusqu'à 9h de ce Mac de l'Immo. En tout cas, mille merci, Bérénice.
Merci, Nicolas Tarade.
D'avoir accepté à cette table à partir de 7h du matin. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à bientôt. Et puis, je vous demande de rester à l'écoute de Radio Immo sur ce Mac de l'Immo. Julien Savelli sur la prochaine heure.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis absolument ravi de vous présenter Romain Bérézé. Romain Bérézé a créé une start-up qui s'appelle Sowell et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour Romain.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous ?
Ben merci, très bien, en forme pour la rentrée.
Bon, super. Merci de participer à cette chronique. Romain, vous allez nous expliquer ce que c'est SOWEL. On va s'intéresser aujourd'hui à l'expérience locataire, à la gestion de proximité, le rôle essentiel des gardiens d'immeubles. Et SOWEL a une promesse à nous proposer. À vous, Romain.
Exactement, merci Jean-Michel. En fait, la promesse de SOWEL, c'est de simplifier le quotidien des gardiens d'immeubles grâce à une application mobile qui est très simple d'utilisation et qui va leur permettre aussi bien de gérer les réclamations de leurs locataires que de contrôler l'état général du patrimoine.
Alors ça, tout ça, c'est très intéressant. Belle promesse, on a envie d'en savoir plus. Hein. Donc la tradition maintenant de cette chronique, c'est de donner une minute top chrono pour en savoir plus. Donc Romain, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça marche, depuis quand c'est créé? On veut tout savoir sur SOWEL en une minute. Allez, c'est à vous, top chrono.
Eh bien, avec plaisir, merci Jean-Michel. Donc SOWEL, ça vient d'une histoire personnelle. C'est la maman de mon associé qui était gardienne d'immeuble et qui était confrontée à la lourdeur administrative pour signaler un problème sur sa résidence. Donc en fait, elle utilisait concrètement des bordereaux papier que certains d'entre vous ont probablement connus. Et le problème, c'est surtout qu'elle avait aucune visibilité sur l'état d'avancement de ses demandes. Donc en 2018, on a décidé de créer SOWEL, qui est une application mobile dédiée aux gardiens d'immeubles, qui est extrêmement simple d'utilisation et qui leur permet de signaler en quelques clics tous les incidents techniques qu'ils vont constater sur leur patrimoine. Ils ont aussi dans cette application de la visibilité sur toutes les réclamations qui concernent leur résidence, et c'est ce qui permet vraiment de les repositionner au cœur de la relation avec les locataires. On a développé ensuite une seconde fonctionnalité qui va permettre de notifier les gardiens sur l'ensemble des contrôles périodiques qu'ils doivent réaliser sur leur secteur. Donc concrètement, ça peut concerner des contrôles qui sont liés aux équipements de sécurité du bâtiment ou encore des contrôles de prestations de ménage par exemple. L'objectif, c'est de s'assurer de la sécurité des personnes dans les bâtiments et d'améliorer la qualité de service.
Super, merci, bienvenue à une minute, hein, c'est très clair. Donc pour résumer ce que je comprends, et vous allez me corriger si je m'égare, c'est que d'abord vous adressez aux bailleurs HLM, qui ont effectivement beaucoup de gardiens pour tout ce service de proximité, et grâce à votre application, l'intelligence que vous avez mis dans le digital, vous allez pouvoir accélérer et améliorer le suivi et donc améliorer le service rendu aux clients, mais également pour le bailleur, mieux suivre les coûts, la réactivité de toutes ces fonctions de proximité développées par les gardiens. C'est bien ça?
C'est exactement ça, Jean-Michel.
Alors, on sait, certains vous connaissent, on sait que vous avez déjà de très belles références en aussi peu d'années. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms pour connaître qui vous fait confiance aujourd'hui?
Eh bien, avec plaisir. On travaille aujourd'hui avec une quarantaine de bailleurs sociaux, ce qui représente un peu plus de 400 000 logements en France. Et comme référence, on a à la fois des bailleurs métropolitains, comme Batigère, Neolia, INI ou encore le groupe Polylogie. Mais on a aussi depuis peu des références outre-mer, comme l'Office polynésien de l'habitat ou encore Ozanam en Martinique.
Oui, en effet, on note de très très belles références à la fois sur le territoire métropolitain, mais également ultramarin. Donc un très beau développement. Vous disiez 40 bailleurs HLM qui vous font confiance. Donc c'est effectivement remarquable. Bravo. Et donc si demain on veut vous contacter, comment on fait, Romain?
Alors vous pouvez nous contacter simplement sur notre site internet www.sowelapp.com. Sowelapp s'écrit SOWELAPP, ou sinon sur notre page LinkedIn sans problème.
Très bien, merci Romain. Évidemment, on fera un petit post LinkedIn ensemble de manière à ce que les auditeurs puissent retrouver toutes les coordonnées, toutes les références que vous avez indiquées. En tout cas, je suis heureux de vous avoir reçu dans cette chronique. On vous souhaite beaucoup de succès dans les années à venir. Évidemment, on va vous suivre et on va se revoir. Merci infiniment Romain et à très bientôt.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Merci Jean-Michel Royot et merci Romain Bérézé. C'est le moment d'accueillir notre invité. Juste avant, évidemment, je vais accueillir Sylvain Lévy-Valency. Bonjour.
Comment ça va, Bérénice?
Eh bien, ça va, je suis ravie de vous
voilà,
revoir.
Voilà, je viens d'arriver, voilà, il était voilà, tôt le matin, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis ravie
de travailler avec vous. Bah oui, un petit peu en retard, hein, ça commençait à 7h.
Ah bah oui, effectivement, si vous voulez.
Non mais vous étiez à Cannes en début de semaine.
Absolument, mais...
On s'est pas revu voilà, depuis.
Je suis pas venu en vélo, hein, quand même, j'ai
j'imagine,
pris l'avion.
J'espère.
J'ai pris l'avion, un MIPIM haut en couleur, oui. Très quali, ultra quali. Plus de 4000 participants par rapport à 28 000, c'est sûr que c'était beaucoup plus petit, mais super.
Et j'ai vu d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, allez voir sur nos réseaux Radio Imo, sur Instagram, Twitter, il y a des photos du plateau, c'était magnifique.
Ouais, magnifique. On a fait la conférence de presse d'Emmanuel Wargon qui a eu lieu sur le plateau oui. de Radio Imo avec toute la planète des journalistes qui est, voilà, elle nous a donné quelques. On espérait un peu des scoops un peu plus étayés, mais notamment sur le Super Pinel, vous savez, le Pinel Plus.
Bien sûr.
Voilà, de bonnes nouvelles qui nous attendent. Et en plus, la semaine prochaine, comme vous le savez, on tourne notre émission avec Capital du Grand Rendez-vous de l'Immobilier où Stéphane Plaza et Emmanuel Wargon seront présents. On était ravis.
On va accueillir notre invité. C'est le moment.
Alors, notre invité, alors c'est quelqu'un. Alors, je lui cours après depuis un moment. Et parce que c'est quelqu'un, on ne croirait pas comme ça, mais il est extrêmement discret. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Je le connais depuis peu, hein, finalement. C'est l'étoile montante du syndicalisme dans l'immobilier. En tout cas, c'est quelqu'un qui défend haut et fort les couleurs du métier et des métiers de l'immobilier. Je dis bien des métiers de l'immobilier, parce qu'il a la particularité d'être inscrit sur les filières métiers, les trois filières métiers. Il est transactionnaire, il est syndic de copropriété et administrateur de biens. Il fait aussi beaucoup de conseils. Julien Savelli, président délégué de la FNAIM, est avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Julien?
Ça va très bien.
Ah, ça nous fait super... Ah, enfin, on se voit.
C'est vrai.
Vous avez voilà. fait un heureux.
Voilà, mon rêve se réalise, je peux mourir. Voilà.
Ah oui, carrément.
Essayez de terminer l'émission et puis après...
Oui, ce serait bien.
Bon, voilà, on voit bien le politique, il dit ouais, terminer l'émission et aller claquer après. Voilà. Bon, c'est une émission de radio, on est ravis d'être avec vous. Si vous venez vous lever, voilà, le bon réflexe, c'est Radio Imo. Et si jamais vous dormez encore, bah, le replay, il est disponible en podcast, n'est-ce pas?
Tout à fait, sur internet, radio.imo, et puis sur notre application également. J'espère voilà. que vous l'avez téléchargé, Julien.
Bien sûr.
Absolument. Il est bientôt 8h, les informations, et on reprend tout de suite avec notre invité.
Changing the mind, tonight, while chasing the
baby, just passing through.
Le Mac de Limo revient avec Opinion Système, promis et bien ici.